to gather at the table of brotherhood. I have a dream.
This time he worked over the shoulder of one.
I take pride in the words, Ich bin ein Berliner.
Challenger, only seconds after leaving the launch pad.
Bonjour, bienvenue à l'Église Nouvelle Vie. Juste avant de commencer, est-ce que vous avez été bénis par la louange? Est-ce qu'on pourrait les applaudir Mylène, toute l'équipe de louange? Job, c'était super! En ce 23 juillet, vous êtes des héros! Parce qu'il y a eu 2 jours de soleil jusqu'à maintenant d'été et vous êtes ici en plein début des vacances. Applaudissez-vous les héros, bravo! Content de vous voir en si grand nombre. Je me suis dit, 23 juillet, je vais être tout seul avec moi-même, mais c'est pas grave, je vais bénir mon âme. Mais c'est encore mieux quand vous êtes là. Dis à ton voisin, ta voisine, heureusement que t'es là, tu l'as béni. Tu me bénis, vous me bénissez. Et c'est un privilège, c'est une grande joie pour moi de vous d'apporter la parole ici à Nouvelle Vie. Je remercie Pasteur Claude, son soutien et le fait qu'il appuie dans mon ministère. Et aujourd'hui, la série classique me passionne. Et je vais partager avec vous un passage des Écritures qui est un classique pour ma propre vie. J'ai emmené ce passage-là à l'île de la Réunion dans quelques endroits en francophonie, mais avant toute chose, ce message, c'est pour moi et Dieu m'a parlé à travers ce texte-là. Lorsque je défendais ma thèse, je faisais ma soutenance de thèse devant des érudits qui étaient devant moi, j'ai eu besoin que Dieu me dise « Je suis avec toi, ne crains rien. » Amen. Quand j'ai laissé mon travail pour rentrer dans l'œuvre de Dieu à temps plein et que j'abandonnais cette carrière-là, Dieu m'a redonné ce texte-là, me dit « Je suis avec toi ». Lorsque Dieu m'a parlé pour me dire « Je vais t'ouvrir des portes, je vais t'amener encore plus loin, dans des pays que tu ne connais pas », il m'a redonné ce passage, me dit « Ne t'inquiète pas, je suis avec toi ». Alors, je ne sais pas comment vous êtes rentré dans ce lieu ce matin, mais Dieu te dit « Je suis avec toi ». Ne crains rien, car je suis avec toi. Amen. Et le texte se trouve dans le livre de Josué au chapitre 1, versets 2 à 9. Et on va lire, c'est quand même 9 versets, mais ça fait tellement du bien à l'âme. N'importe quand, vous voulez dire « Amen », mais dire « Seigneur, Amen ». Ça veut dire « Ainsi soit-il ». Fais-le dans ma vie. Et ça commence comme suit. Ça dit « Moïse, mon serviteur, est mort ». Et c'est Dieu qui parle à Josué. Il dit « Maintenant, lève-toi ». Passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Amen. Alors ça, c'est un petit réchauffement, là, OK. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Éthiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Mais là, écoutez, oh, un bijou. Nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Amen. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen! Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia! Wow! C'est tellement un texte qui m'inspire. C'est un texte, évidemment, qui parle de la conquête de la terre promise, que Dieu a une terre promise, un lieu de bénédiction, un lieu qui, où coule le lait et le miel pour chacun et chacune d'entre nous. Ce matin, nous allons regarder à trois types de terres promises. La première terre promise, c'est une terre promise qui est acquise. Nous possédons déjà une terre promise en Jésus-Christ. Le deuxième point qu'on va regarder, une terre promise à conquérir. On a une terre qui est acquise déjà, mais par la suite, nous devons, comme Dieu a dit à Josué, se lever et entrer en possession. On va voir comment il est possible, deux clés, pour entrer dans notre terre promise. Et la troisième est une terre promise à partager. Première terre promise acquise, juste vous mettre un petit peu dans le contexte. Avant que Josué, que Dieu appelle Josué à emmener le peuple dans cette terre promise-là, c'était Moïse. Moïse était le leader en Israël. C'était celui qui dirigeait le peuple d'Israël. Et Moïse, juste pour se remettre dans un contexte, à cette époque-là, le peuple d'Israël était esclave en Égypte. Est-ce que vous connaissez l'histoire? Et le roi d'Égypte les traitait durement, les mettait sous la servitude. C'était des conditions de vie abjectes. Et Dieu parle à Moïse, puis il dit, « Moïse, c'est toi qui vas sortir mon peuple de l'esclavage. C'est toi qui vas sortir mon peuple de la douleur. » Et le texte que je veux partager en premier avec vous, c'est dans Exode, chapitre 3, de 7 à 9. Et c'est tellement beau, ça dit, « L'Éternel dit à Moïse, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est venu en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. » Et ça dit, dans une autre version en hébreu, « Dieu vit les Israélites et il comprit leur situation. » Et est-ce que vous croyez que la Bible est la même hier, aujourd'hui et éternellement? Si Dieu a vu la vie de douleur des Israélites, la vie d'esclavage, la vie de servitude, et il eut compassion. Dieu connaît ta vie, connaît ta douleur et il a compassion. Juste en ouverture de message, saisis que ce que tu vis, Georges-Marie, Luc, peu importe votre nom, Dieu voit. Peut-être que l'impression que personne ne le voit, mais Dieu ce matin dit, « Je vois ta douleur. Je vois ce que tu traverses. » Et la suite du texte va, « Je suis descendu pour délivrer de la main des Égyptiens et pour faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. » Et la suite du verset va comme suit, « Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur fait souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, tu feras sortir d'Égypte mon peuple et les enfants d'Israël. » Et c'est exactement ce qui prend place. Après 430 ans de servitude, Dieu entend cette douleur-là et il dit à Moïse, « Maintenant, c'est le temps. C'est le temps de libérer mon peuple. » Et ce qui arrive, c'est que maintenant, le Pharaon, il y a eu les plaies d'Égypte. Le roi d'Égypte est mort. C'est Pharaon qui dirige. Et à un moment donné, Pharaon, Dieu assouplit le cœur de Pharaon et il laisse aller le peuple d'Israël. Et lorsqu'ils s'en vont, tout le peuple sort et ils s'en vont. Le peuple fait face à une mer rouge qui est devant eux. Mais au même moment, Pharaon se repent de sa décision. Et il dit à toute son armée, « Qu'est-ce qu'on a fait là? On a laissé sortir le peuple d'Israël. » Et il part avec toute son armée. La Bible nous dit qu'il y avait 600 chars d'élite et toute l'armée d'Israël avec des chars. Et vous avez un peuple avec un leader. Donc, le peuple d'Israël avec Moïse à la tête sont face à une mer rouge. Et de l'autre côté, imaginez-vous, là, la cavalerie au complet, 600 chars d'élite. Amen. Et ce n'était pas des enfants de cœur. Comment vous vous seriez senti? Et c'est exactement. Dieu entend et voit. Et il leur dit, Exode 14, verset 3. Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous. » Amen. Et il y a une version Tom qui est succulente qui dit « N'ayez pas peur, répondit Moïse. Tenez bon et vous verrez comment le Seigneur interviendra aujourd'hui pour vous sauver. En effet, ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le reverrez plus jamais. Le Seigneur va combattre à votre place. Vous n'aurez pas à intervenir. » Et c'est extraordinaire, c'est exactement ce que Dieu va faire. Il ouvre la mer Rouge et permet au peuple d'Israël de sortir de l'esclavage pour s'en aller vers leur terre promise. Et je vous raconte toute cette histoire-là parce que toute cette histoire-là est un parallèle avec Jésus-Christ. Moïse est la préfiguration de Jésus. Et c'est exactement ce que nous vivions. Nous étions dans l'esclavage avant de connaître Dieu. Nous étions dans l'oppression. Nous étions dans la douleur. Et Jésus s'est levé pour venir ouvrir un chemin entre Dieu et les hommes afin que nous puissions entrer dans la terre promise. Alléluia! Il ouvre cette voie afin que nous puissions entrer. Vous savez, dans l'Ancien Testament, on voyait avec les sacrificateurs, il y avait un voile entre la présence de Dieu et les sacrificateurs. Et Dieu, quand Jésus est mort, la Bible nous dit que le voile s'est déchiré. Le voile était tranché en deux et on a pu maintenant, aujourd'hui, avoir accès à Jésus-Christ. C'est exactement ça. Lorsque la mer s'est ouverte, ils ont pu espérer un avenir meilleur. Ce matin, je ne sais pas quelle mer rouge tu fais face, quel Égyptien ou char qui sont derrière toi, mais tu as une terre qui t'est acquise en Jésus-Christ. Qu'est-ce que c'est cette terre acquise? Ce n'est pas un territoire physique, vous aviez bien compris depuis le début. C'est une réalité spirituelle. En Jésus, nous ne sommes plus esclaves du péché. En Jésus, nous ne sommes plus sous l'oppression de l'ennemi. Amen. Nous avons accès à la croix. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus pour briser toute chaîne. Briser les chaînes de vos vies, briser les chaînes dans vos maisons, briser des chaînes. La Bible nous dit qu'en Christ, on a une grâce. Les versets sont à l'écran. Il y a une grâce et une paix qui nous a donné. En Jésus, la Bible nous dit que nous sommes plus que vainqueur par celui qui nous a aimés. Tu n'es peut-être pas dans ta terre promise encore, mais aujourd'hui, tu peux être plus que vainqueur dans ton âme, car tu as accès à Jésus. Tu peux lui parler comme un ami. Tu peux dévoiler ton âme. La Bible nous dit qu'on peut ne pas perdre courage. Jésus a tout supporté afin que nous ne nous lassions pas abattre l'âme découragée. C'est la parole de Dieu. Dans 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 4, il nous écrit « Nous pouvons être heureux malgré les épreuves. » Et je rajouterais, on peut être heureux, et c'est une des grandes leçons de 2017 dans ma vie, il est possible d'être heureux, heureuse, malgré des problèmes non résolus. Pensez-y encore. Il est possible d'être heureux ou heureuse malgré des problèmes non résolus. Parce que Dieu, il me dit, si je demande à Dieu, avec accent de grâce, qu'il peut me donner une paix qui surpasse toute intelligence. Et que dans l'épreuve de se réjouir, ça ne veut pas dire se réjouir, se rigoler, se rouler à terre. Ça veut dire que dans des problèmes non résolus, on peut, grâce à cette terre promise acquise, marcher dans la paix. Parce qu'on a confiance que Jésus est avec nous. La terre promise acquise, par contre, lorsqu'on regarde au texte, vous savez, quand ils ont traversé la mer Rouge, ils ont vu la gloire de Dieu, la mer s'ouvrir, l'ennemi anéanti. Ça ressemble à nous quand on donne notre vie à Jésus. Et ils ont chanté un cantique, je ne sais pas si vous avez tel... Bon, je l'ai chanté à la première réunion, ça ne fut pas un succès, donc je vais me... Quoique je l'ai dit que j'aimerais chanter. Alors, c'est mon moment de gloire. Et moi, quand j'étais élevée à 15 ans, j'étais allée à l'église, puis j'enseignais à l'école du dimanche, puis on enseignait, je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Le cheval et son cavalier furent jetés dans la mer. Est-ce qu'il y en a qui connaissent ça? Ça veut dire que je me suis convertie très jeune. C'est ce qu'on va dire. Et Ce chant-là provient du peuple d'Israël qui, lorsqu'ils ont vu la gloire de Dieu, l'ennemi anéanti, se sont mis à chanter. Amen. Et ils ont chanté, et 21 versets plus tard, vous irez voir dans votre Bible, ils se sont mis à critiquer et à dire à Moïse, « Oh, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte pour qu'on meure là-bas? » Incroyable! Ils viennent de voir la gloire de Dieu. Et le texte nous dit dans Exode 15, verset 22, « Moïse fit partir d'Israël de la mer Rouge et prirent la direction du désert de Shur. » Et là, je fais trois petits points et c'est écrit, « Après 3 jours de marche. » Là, ton voisin, il n'avait juste 3. 3 jours de marche dans le désert, ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent boire de l'eau car elle était amère. Et le peuple murmura. Il ne parle pas de nous autres là, dans la Bible. Hein? On parle du peuple d'Israël qui n'avait aucune reconnaissance de ce que Dieu avait fait. Si on est honnête, on n'est pas ici pour s'impressionner. Dieu nous a donné cette terre acquise. Et lorsqu'on arrive à Mara, peu importe le nombre de jours de marche de vie chrétienne, chacun d'entre nous, on est tous déjà allés à Mara. On est honnête, on est tous déjà allés à Mara. Et peut-être que ce matin, tu es peut-être même à Mara. Et je n'ai pas de jugement parce que l'eau était vraiment amère. Puis aujourd'hui, la vie est vraiment dure. Mais ce qu'ils ont fait, c'est que je prie qu'ensemble, aujourd'hui, que nous puissions reconquérir cette terre qui nous est acquise. Et de ne pas rester à Mara, mais te dire aujourd'hui, j'ai confiance en Dieu. Aujourd'hui, j'ai accès à lui. Aujourd'hui, je suis vainqueur par la grâce. J'ai la paix par la grâce. Vous êtes avec moi? Ne restez pas à Mara et revenez au pied de la croix. Lisez cet été, prenez du temps pour être réfléchi dans la parole de Dieu. Et c'est là que Dieu nous retire de Mara et que notre espoir revient en lui. Amen. Première chose, une terre promise acquise. La deuxième terre qu'on va regarder, c'est une terre promise à conquérir. Lorsque je parle de terre promise à conquérir, la terre promise dont je parle, c'est, on peut parler de la victoire sur une situation, l'accomplissement d'une promesse, la réalisation du plan ou du rêve de Dieu pour vos vies, la réponse à une prière, quelque chose que tu pries, et là, Dieu te le donne. Et cette terre promise-là, quand, vous savez, on a parlé de Moïse, maintenant on va aller vers l'histoire de Josué, tranquillement, le texte que je vous ai lu au début. Et lorsqu'on arrive dans ce texte-là, Dieu leur dit, vous allez sortir justement d'Égypte et là, je vous emmène dans votre terre promise. Et les mots que dira Dieu à Josué, il va lui dire, Josué 1, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, toi, Josué, lève-toi et passe ce Jourdain. » OK? Simple, êtes-vous avec moi? Ils ont vu la main de Dieu, ils sont allés à Mara, ils ont continué à marcher, ils ont tourné 40 ans dans le désert. À un moment donné, c'est comme si Dieu dit à Josué et au peuple, « Là, ça suffit. Par votre incrédulité, ça fait 40 ans que vous êtes dans un lieu aride et que vous tournez. Aujourd'hui, là, ça suffit. Lève-toi. Passe ce Jourdain. » Facile. Et pourtant, lorsqu'on regarde le texte, le Jourdain, à cette époque-là, c'était un immense fleuve. C'est comme si vous alliez sur le bord du fleuve Saint-Laurent, puis Dieu te dit, « Ça suffit, là. Vas-y, lève-toi. » Traverse ça. OK? Et le fleuve était immense. La Bible nous dit que c'était le temps de la moisson. C'est-à-dire qu'en plus que c'était immense, c'était la pire période de l'année. Le fleuve débordait de chaque côté comme pour éprouver encore plus leur foi. Et tout le monde, tout le peuple savait, et Josué y compris, que c'était impossible par leur propre force de traverser ce Jourdain. Impossible. Et pourtant, Dieu leur dit, et c'est pour ça qu'il leur dit, ne t'effraie point, aie courage, n'aie pas peur, parce que tu as un fleuve, tu as une impossibilité devant toi, mais moi, je vais marcher avec toi. Et alors qu'il leur demande ça, on va regarder dans le texte qui va suivre, Dieu va donner 2 clés, 2 principes déterminants pour que le peuple d'Israël puisse entrer, traverser cette impossibilité et s'en aller vers leur terre promise, celle qu'elles ont à conquérir. Et ces 2 principes-là sont encore applicables aujourd'hui. Le texte est dans Josué, chapitre 3, versets 1 à 5, et ça nous dit « Josué s'étant levé de bon matin, partit de Sittim avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain, et là ils passèrent la nuit avant de le traverser. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'Alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous mettrez en marche après elle. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé ce chemin. » Et Josué dit au peuple, « Sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. » Il y a 2 clés dans ce texte extrêmement important. Il leur dit, « Faites-moi confiance. » Et le 2e point, « Marchez dans l'obéissance et je vais déclencher ma puissance. » La confiance en Dieu. Il leur dit, « l'Arche de l'Alliance représente la présence de Dieu à cette époque-là. » À cette époque-là, ça représentait la présence de Dieu. Aujourd'hui, on ne représente plus comme ça. Dieu est à tous les jours. Il a dit, il est avantageux que je m'en aille. Je vous enverrai le Saint-Esprit qui sera tous les jours avec vous. Et c'est la même chose. Et concrètement, il leur dit, ma présence va passer et suivez ma présence. Ayez confiance, car je vais vous enseigner le chemin. Et ce matin, tu es peut-être face à un Jourdain, à une impossibilité. Et Dieu te dit, fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Je vais te faire marcher. Je vais te donner des instructions parce que je veux t'amener à un niveau supérieur. Il leur dit, vous avez jamais passé par là. Et ça dit dans une autre version, ainsi que vous saurez quel chemin, c'est-à-dire, car vous n'avez encore jamais fait ce trajet, je vous le montrerai afin que vous puissiez connaître la voie. Et Dieu parle aujourd'hui de diverses façons, par les Écritures, par la prédication, il parle lorsque tu pries, et faites-vous confiance, je veux vous défier. Dieu, tu es face à une situation, on demande, la Bible nous dit, si tu demandes la sagesse, il va te la donner. Si tu demandes l'intelligence dans les problèmes, il va t'instruire, il va te donner. Avez-vous déjà été face à une situation où vous dites, là, je sais plus quoi faire avec ça. Je sais plus quoi faire. Avec des enfants, avec un travail, avec mes problèmes financiers. Mais le Seigneur dit, si tu me fais confiance, je vais t'instruire, puis je vais t'emmener à un niveau supérieur. Je vais t'emmener à un niveau, quelque chose que tu connais pas. Et comment Dieu parle? Dieu, il dira sûrement, peut-être, probablement pas, Hugo, c'est... Oh, ça a été peurant, hein? Il parle fort, Dieu. Hugo, c'est Dieu qui te parle. Et je te dis que dans 2 ans, tu vas aller prêcher. C'est pas comme ça que Dieu parle. Ben, on aimerait bien. Mais Dieu va écouter les petites voix dans vos cœurs. Que ce soit pour les choses simples de la vie, que ce soit pour les choses complexes. Avec mes enfants, souvent, ça m'est arrivé de prier dans un moment de prière ou quelque chose. Puis le Seigneur m'a dit, la pensée qui était sur mon cœur, c'est « Va donc voir au sous-sol ce qui se passe. » Et quand j'arrivais, « Qu'est-ce que tu fais là, maman? Qu'est-ce que vous faites? Rien. » Bien, j'ai dit, j'avais à cœur de venir voir. Bulo, qu'est-ce qu'il dit, Dieu? T'es une voyante? Il t'a tout dit. Et c'est drôle, mais je leur dis, bien non, c'est écouter ces choses-là. Et que ce soit pour d'autres choses de votre vie, pour un ministère, pour un rêve. Moi, à 15 ans, Dieu a déposé un rêve sur ma vie, une petite voix. Et 30 ans plus tard, j'ai vu l'accomplissement de ce rêve-là et je le vois encore. Et je te dis, si. Et cette parole-là, je l'ai dit à la première et je le crois aussi. Personnellement, mais collectivement comme Église, Dieu nous appelle à aller encore plus loin. En 25 ans de Nouvelle Vie, on en a vu des miracles et des mers rouges s'ouvrir et des Jourdains s'ouvrir. Mais je crois de tout mon cœur que Dieu, Église Nouvelle Vie, va nous emmener à un niveau d'influence au-delà de ce que nous pouvons penser et même imaginer. Et des fois, l'équipe pastorale va dire, comment on va faire ça? Comment avec la prairie, avec tout ce qui s'en vient? Comment? Et Dieu nous dit, moi, je vais vous montrer le chemin. Vous n'avez peut-être jamais passé par ce chemin-là, mais moi, je vais vous conduire en pleine direction. Le 2e point, c'est fais confiance à Dieu. Le 1er point, fais confiance à Dieu. Le 2e point, le texte qui suit, la phrase qui suit, c'est sanctifiez-vous, car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. entre vous et moi, bon, je sais que vous êtes très spirituel dans ce lieu, et que, mais moi, j'aime la portion « Aie confiance, Dieu va t'emmener à loin, à des niveaux supérieurs ». Ça, ça me plaît bien. Mais ce qui suit, et ça fait partie du texte, ça dit « Sanctifiez-vous ». Quoi? Quelque chose de pas correct, moi? Il y a quelque chose qui... il y a un autre terme en hébreu qui dit « consacrez-vous ». Et moi, au début, je crois à la sanctification, on le prêche et on le vit. Mais moi, je me suis convertie dans une église à 15 ans, dans une petite église quelque part sur la planète. Et c'était une église qui était extrêmement légaliste. Puis là, lorsqu'il parlait de sanctification, là, c'était « là, il faut vous sanctifier ». Puis moi, j'avais peur à 15 ans. Puis j'étais comme... Moi, j'avais jamais rien fait, tu sais, pas fait de vol de banque. J'ai rien fait. Fait que quand il disait ça, puis là, des fois, il arrivait le dimanche matin, puis et c'est vrai, il disait quelqu'un qui disait portait la parole, quelqu'un, il disait « Là, ce matin, je pourrais tout dévoiler vos péchés. » Aimeriez-vous ça, vous? Bon, je sais que vous n'en avez pas, mais au cas que vous en avez un ou deux, là, OK? Et moi, le terme « sanctification », ça laissait comme quelque chose de flagellation, tu sais. Et là, j'aurais voulu l'apporter tellement autrement. Oui, Dieu nous appelle à nous sanctifier, à vivre une vie droite, une vie en règle avec lui. Pas parce qu'il veut nous punir, il nous a sauvés déjà. Puis elle dit, si on confessait nos fautes, il est fidèle, il est juste pour nous pardonner, qui a cloué à la croix, là qu'il nous condamnait. Mais il dit non. Il dit, enlève de ta vie, consacre-toi encore plus, parce que je veux faire un miracle dans ta vie. Je veux faire un miracle dans ta vie. Un miracle que tu n'as pas imaginé. Un miracle qui va faire que tu vas pouvoir saisir cette vie abondante qu'il y a pour toi. Et la pensée... Dieu, je vous dis, parle de toutes sortes de façons. Et la pensée qui était sur mon cœur, c'est « voyage léger ». Stéphanie, si tu veux entrer dans ta terre promise, tu dois voyager léger. Est-ce qu'il y en a qui vous aimez voyager ici? Est-ce que vous savez que c'est de plus en plus difficile voyager, n'est-ce pas? Et déjà, quand il ne faut pas payer pour un bagage, c'est déjà très beau. Et quand on a 23, on a droit à 23 kilos quand on voyage. Ça, c'est ma petite valise. Des fois, je pourrais juste embarquer dedans, là, elle est aussi grosse que moi. Et vous comprenez l'idée de voyager léger? Moi, je n'ai pas tout à fait compris ça encore. Et quand je prends toujours cette valise-là, et il y a des souliers là-dedans, il y a toutes sortes de... Tu sais, ça prend des vêtements pour prêcher, ça prend des vêtements pour voyager, ça prend des souliers hauts pour prêcher, des souliers bas pour marcher. Donc, déjà, il y en a de toutes les couleurs. Bon, ils sont toutes noires, mais il y en a plusieurs. Et, je dis à la première, un de mes versets favoris, c'est « Qu'ils sont beaux les pieds de ceux et de celles qui annoncent la bonne nouvelle. » Donc, je répète ça souvent à mon mari, « Qu'ils sont beaux. » Donc, pour avoir des beaux pieds, ça prend des beaux souliers. Bon, ça, c'est autre chose. Et ça... J'ai un peu faim. Et dans ma valise, il y a beaucoup de choses. Et j'étais en Martinique. Et j'étais en train... J'avais fini de prêcher. Et les femmes là-bas étaient généreuses, l'Église généreuse, des cadeaux, des livres de recettes, des robes martiniquaises, tout ça, des épices. Et ils m'ont donné du parfum. Écoute, j'avais plein de choses. Et donc, j'étais déjà très lourde en partant. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Où je vais mettre ça là-dedans? Et la pensée qui m'est venue, c'est comme si Dieu me disait, Stéphanie, si tu veux, il ne m'a pas parlé comme ça, la pensée qui m'est venue sur mon cœur, c'est comme si tu veux rentrer au Canada et ne pas dépasser 23 kilos, c'est très profond ce que je vous dis, tu dois enlever des choses dans ta valise pour en mettre des meilleures. Me suivez-vous? Tu dois enlever des choses dans ta valise pour en mettre des meilleures. Et c'était la même chose dans ta vie. Si nous voulons entrer dans notre terre promise, il faut enlever de notre vie des choses qui ralentissent notre pas pour que Dieu puisse en mettre des meilleures. Amen. Et finalement, je suis ramenée à Montréal, puis les filles m'avaient donné un parfum à la vanille. Ça, c'est cocasse. Et je suis arrivée dans la salle des pasteurs le dimanche, tout fière de mon voyage. Puis les pasteurs sont là, puis Denis, pasteur Denis Morissette est là. Puis là, on se met à prier. Puis là, tout d'un coup, Denis, comment ça sent le gâteau ici, là? Fait que finalement, j'étais fière de porter mon parfum à la vanille. Et juste vous dire ce matin, qu'est-ce qu'il y a? Je vous fais rire parce qu'après ça, ça s'en vient. Qu'est-ce qu'il y a dans ta valise? Qu'est-ce que tu dois enlever? Ton caractère a changé? La colère. La colère, c'est de l'insatisfaction. Le manque de pardon, de l'amertume, des offenses que tu gardes lourdement. dans ta valise depuis des années. Et la jalousie, la culpabilité, comme j'ai dit, une culpabilité qui est saine, mais lorsque tu demandes pardon, Dieu te libère. La honte peut-être des gestes que tu as subis de parents, des abus, des paroles de mort, et tu gardes ça dans tes valises et tu essaies d'entrer dans ton pays de bénédiction, puis tu n'es pas capable, c'est trop lourd. Mais ce matin, le Seigneur te dit, enlève-le, enlève-le. Je vais te donner la force de l'enlever. La critique envers mon mari. Des fois, on dit, oh non, ou envers les autres, ou envers mon église. Et des fois, on dit, ben non, moi, je n'ai pas la critique. J'ai rien dans mon cœur, il va bien. Mais la bouche parle de l'abondance du cœur. C'est toujours des paroles négatives. Est-ce que tu qu'il y ait quelque chose dans ta valise qu'il faut qu'il change? Le manque de contentement, la perte de confiance, du compromis. Je parlais de mauvaises relations. Des hommes, des femmes dans ce lieu, qui a des relations que Dieu vous dit, garde, j'ai mieux pour toi que cette relation-là. J'ai mieux pour toi que cette personne-là. Si tu te consacres à moi, je vais faire un miracle dans ta vie. Et ça, ça prend de la confiance. Confiance et obéissance déclenchent la puissance. Il y a couper le cordon. Et beaucoup de parents dans ce lieu, on traîne dans nos valises nos enfants. C'est certain, on est des parents. On va traîner nos enfants toute notre vie sur notre cœur. Mais il y a traîner nos enfants et les supporter, les encourager, marcher avec eux, puis il y a les porter trop avec nous. Vous savez, quand ils ont 30 ans, 25 ans, j'ai dit 35 ans à la première réunion, mon mari a dit, t'es allé fort, même à 22 ans, ils peuvent sortir de la valise, il faut couper le cordon. Mais je comprends, ça veut dire, je ne parle pas de jeunes enfants, on est des parents, mais je vous parle de jeunes adultes, de jeunes gens mariés, qui à un moment donné, il faut comprendre que ces gens-là font des choix avec les conséquences de leurs choix. Et qu'on est là pour, ça ne veut pas dire baisser les bras, prier, aimer, jeûner, recommencer, mais remettre à Dieu. Pas remettre à Dieu pour remettre dans la valise 5 minutes après, puis marcher avec le poids puis les erreurs de nos enfants. Vous comprenez? Et ce matin, Dieu te dit, fais-moi confiance, suis-moi, je vais t'emmener à un niveau supérieur, un niveau que tu ne connais pas. Puis il te dit, voyage léger. Qu'est-ce que tu as dans ta valise que tu devrais enlever? Et le dernier point que je vais partager avec vous, on a parlé d'une terre acquise en Jésus-Christ, que nous avons accès par la croix, à la paix, nous avons accès à la croix, à la grâce, à tout ce que le Consolateur, le Saint-Esprit. La terre à conquérir, marcher avec confiance et obéissance. Et finalement, une terre promise à partager. Et juste avant de parler de la terre promise à partager, il y a un point qui m'a frappé avec le texte de Josué quand ils ont traversé le Jourdain. C'est fascinant de voir que quand ils ont mis le pied à l'eau, le Jourdain s'est ouvert. La Bible nous dit que le Jourdain s'est ouvert et que tout le peuple a pu traverser. Je vais vous lire le texte dans Josué 3, ça dit « Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau et furent complètement coupées. Et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec au milieu du Jourdain. Pendant que, et si vous prenez des notes soulignées, pendant que tout Israël passa à sec jusqu'à ce que toute la nation eût achevé de passer le Jourdain. » Ça a l'air tellement simple quand tu lis ça, mais imaginez-vous l'histoire. C'est des centaines et des centaines de milliers, des centaines et des centaines et même des milliers de personnes qui sont face derrière Josué et que là, ils espèrent, ils voient l'espérance de la bénédiction. Le Jourdain s'ouvre et là, ils commencent à marcher. Et là, on voit que les eaux ne se referment pas. Mais je ne sais pas combien d'heures ça a pris à traverser le fleuve. Et ceux, imaginez, la femme ou l'homme ou l'enfant qui était le 3290e personne à passer le Jourdain. Elle était en arrière, puis elle voyait toute la foule passer. Puis elle voyait de loin, elle voyait la promesse de loin. Peut-être qu'elle s'est dit, ils vont-tu rester, le Jourdain va-t-il rester ouvert jusqu'à temps que moi je passe? Il y en a qui marchent vite, sont devant moi, mais moi, je marche lentement. Moi, je suis vieux, je suis fatiguée, je suis jeune, je suis fatiguée, j'ai tous les âges, je suis fatiguée. Et là, puis là, tu te dis, je vais-tu, moi, rentrer dans la bénédiction? Et ce qui est beau, c'est que la Bible nous dit que le Jourdain ne s'est pas fermé avant que tout le monde, tout le monde est entré dans la promesse. La terre promise n'est pas pour une élite. La terre promise n'est pas pour seulement ceux qui marchent vite. La terre promise est pour toi, peu importe à la vitesse que tu marches. Pourvu que tu marches, tu vas entrer dans cette terre-là. Alléluia. Il y a une terre promise qui est acquise. Il y a une terre promise qui est à conquérir. Et finalement, il y a une terre promise qui est à partager. Je vais clôturer encore avec le même début de verset. Quelques mots qui font toute la différence. Josué, chapitre 1, verset 3, j'ai dit, « Moïse, mon serviteur, Dieu qui parle à Josué, Moïse, mon serviteur, est mort. » Il lui dit, « Maintenant, lève-toi. » C'est ce que Josué a fait. Il a dit, « Passe ce Jourdain. » C'est ce que Josué a fait. Mais la suite de la phrase, c'est « Avec tout le peuple pour entrer dans le pays que je vous donne. » Le Seigneur, nous, il nous a donné une terre qui est acquise. Il nous a donné une terre qu'on va conquérir. On va avoir les promesses. Mais tout ceci, ce n'est pas pour que nous faisons tout ça pour nous-mêmes. Dieu nous dit ce matin, emmène avec toi des gens qui ne connaissent pas Dieu dans la terre promise. Que Josué a pris l'appel. Il a commencé à dire, il a emmené le peuple, il a inspiré le peuple. Et en 2017, bien certain qu'on a besoin d'avoir des réponses à nos prières, bien certain qu'on veut voir les promesses de Dieu. Mais pourquoi? Pour qu'une multitude soit sauvée. Dieu nous appelle à emmener des âmes brisées, à emmener des gens qui souffrent dans une société en 2017 où c'est difficile. Est-ce que vous êtes d'accord? La vie est dure. La vie est dure. L'anxiété, le suicide, les problèmes autour, les problèmes financiers, l'insécurité mondiale, tout ce qui est là. Il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui souffrent et qui attendent que nous soyons là pour leur apporter la bonne nouvelle et de leur dire qu'il y a une terre promise pour eux aussi. Amen. Nous prions pour le réveil, mais nous sommes le réveil. Nous sommes le réveil en 2017. Et comme les porteurs ont emmené le paralytique à Jésus, c'est exactement ce que Dieu nous demande. Il nous donne la terre acquise. Il nous donne ces promesses-là, mais il nous demande, ne reste pas juste à l'église, mais emmène quelqu'un autour de toi à Christ et que Jésus puisse le guérir. Et c'est fascinant parce que en méditant sur ce texte-là, des fois les mots sont simples, mais veulent dire beaucoup. Et dans Josué 1:1, je vous ai dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, lève-toi. Je ne sais pas si vous voyez une subtilité. S'il y a des jeunes étudiants de collège public, je ne vous poserai pas la question, Hugo, n'aie pas peur. Mais dans le texte, c'est écrit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, il dit à Josué, serviteur de Moïse. C'est beaucoup plus prestigieux et d'influence d'être serviteur de l'Éternel que serviteur d'un homme sur terre. Êtes-vous d'accord avec moi? Je m'en vais à quelque part avec ça. Et Josué, il aurait pu dire, écoute Dieu, tu me demandes d'emmener le peuple avec toi, mais moi, je ne suis pas Moïse. Moïse, rappelez-vous, c'est l'homme qui a vu Dieu face à face, la gloire de Dieu dans la montagne. Moïse, c'est celui que Dieu a parlé dans un buisson. Moïse, serviteur de l'Éternel dans la Bible, là, c'est un poste. Si vous postulez, c'est assez prestigieux. Il y a juste Abraham, Moïse et David qui furent appelés serviteurs de l'Éternel. Et dans la parole de Dieu, dans Deutéronome 34, ça nous dit, il n'y a plus paru, après quand Moïse est mort, il n'y a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse que l'Éternel connaissait face à face. Vous n'avez pas compassion pour Josué, vous autres? Oh, moi, j'ai une crampe au ventre, je sais y penser. Je me dis, pauvre Josué, Dieu, il dit, toi, c'est toi qui prends la place de Moïse. Et ça dit, nul ne peut lui être comparé par tous les signes et les miracles que Dieu l'envoya faire au pays d'Égypte, car Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays et pour tous les prodiges de terreur que Moïse accomplit à main forte sous les yeux de tout Israël. Je suis certaine qu'avant, face à son Jourdain, Josué il a dû dire, hey, moi, je ne suis pas compétent. Il y a quelqu'un qui s'est trompé ici. Josué est un serviteur. Il servait Moïse. Il emmenait son manteau, ses clés de taux, tout ça. Et après ça, il servait. Puis en plus, il était un guerrier. Lui, ce n'était pas celui qui allait sur la montagne. Lui, c'était le gars avec la lance, puis il y a la guerre. Mais c'est extraordinaire parce que Dieu a choisi Dieu, si Dieu choisit Josué et l'élève à ce niveau-là, Dieu peut vous choisir, vous et moi, pour emmener des gens dans la terre promise. Et probablement, des fois, on dit, pourquoi Dieu y répète tant que ça? Si je vous lis le texte qui suit, il dit, quand Dieu lui dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Voyez-vous, imaginez qu'est-ce que Josué a ressenti. Lui, il savait ce que ça voulait dire. Moïse, c'est le grand, le top du top des sacrificateurs. Puis Dieu dit, moi là, je vais être avec toi comme j'étais avec Moïse. Je ne sais pas qui tu as emmené dans ta terre promise. Peut-être que des fois, tu te sens incompétente. Ça fait des années que tu témoignes à quelqu'un, que tu pries. Puis le Seigneur te dit, tu as l'impression que, comment ils vont venir, c'est pas par moi. Ouais, Dieu te dit qu'il va être avec toi, comme il était avec Moïse. Il lui dit, je ne te délaisserai point. Il dit, fortifie-toi, prends courage. C'est toi qui vas emmener le peuple. Fortifie-toi. Et ça prend tout son sens. Pourquoi que Dieu lui rappelle? Et ce qui est beau, c'est que Josué répond à l'appel de Dieu. Il marche en avant. Fais confiance. Il met le pied dans. Peu importe ses compétences, peu importe ses diplômes, peu importe s'il avait eu Dieu face à face, il marche et là, il met le pied dans l'eau et il voit le miraculeux. Et c'est lui, comme la parole l'avait déclaré, qui a emmené le peuple d'Israël. Et la fin de l'histoire, c'est tellement extraordinaire. Dans Josué 24, alors j'arrive à la fin de ce message, dans Josué 24, verset 29, ça nous dit, après ces choses, tout ce qui s'est passé à la fin de la vie de Josué, Josué, notre ami, fils de Nun, virgule, serviteur de l'Éternel, mourut âgé de 110 ans. Amen. Ça m'a tellement touchée que Dieu a fait de lui un serviteur d'un homme et à la fin de sa vie, parce qu'il avait marché avec confiance et obéissance et qu'il avait été fidèle, maintenant il est devenu serviteur de l'Éternel. Josué est un homme de la même nature que vous et moi. Et en terminant ce message, rappelez-vous, n'oubliez pas, en sortant d'ici, vous n'êtes plus Amara. Vous pouvez décider ce matin de ne plus être Amara puis de vous réapproprier cette terre acquise. Deuxièmement, de la conquérir en obéissant et en lui faisant confiance. Et troisièmement, de dire cet été, je vais témoigner, je ne me relâcherai pas. Il y a quelqu'un que je veux partager l'Évangile. Et il y a une personne que, quand on parle de la série classique, pour moi, j'aime beaucoup étudier les grands hommes de l'histoire, les femmes de l'histoire. Il y a des femmes qui, moi, m'influencent beaucoup. Il y a eu Rosa Parks, vous savez, la femme qui est restée assise dans l'autobus et qui a tout en levé un mouvement avec Martin Luther King contre toute la ségrégation et ainsi de suite. Et il y a une femme aussi qui a marqué, moi, mon ministère dès le début que j'ai étudié, que j'ai lu sa biographie, c'est Helen Keller. Et pour moi, Helen Keller, c'est une image contemporaine de ce que Josué a fait à son époque. C'est une femme qui est née en santé. On va voir la biographie. Mais à 19 mois, elle est devenue aveugle, muette et sourde. Vous êtes d'accord que dans cet état-là, quand tu vis ta vie dans cet état-là, tu pourrais rester Amara pendant quelques années. Et c'est une femme qui avait la foi. Et elle a surmonté plusieurs Jourdains et elle est entrée dans sa terre promise. C'est une femme qui a appris à parler par divers, à l'aide de quelqu'un. Et même si elle était aveugle, elle a fait le tour du monde entier. Elle a été une femme d'influence pour lutter pour le droit des suffragettes, pour le droit de vote des femmes. C'est une femme qui s'est levée pour tous les non-voyants, développer des écoles. C'est une femme qui faisait, imaginez avec son handicap, elle faisait des discours pour pouvoir avoir des sous, pour développer des écoles. Puis en plus, à cette époque-là, souvent les personnes handicapées, c'était un peu considéré comme des enfants, personne non grata. Donc, c'est comme si ces gens-là avaient comme une tare ou quelque chose, il y avait comme une vie qui devait être un peu limitée. Puis elle a s'élevé et a dit, toutes les personnes avec des handicaps, Dieu a un plan, une destinée pour chacun d'entre eux. Et elle a été une figure marquante pour moi. Et j'aimerais ça qu'on puisse regarder une femme qui n'est pas restée à Mara, une femme qui a traversé les Jourdains et une femme qui a emmené avec elle des gens dans la terre promise.
Helen Keller is known around the world as a symbol of courage in the face of overwhelming odds.
Helen Keller was so important to changing the attitudes all over the world toward handicapped people, but in particular, blind people and deaf and blind people.
Helen Adams Keller was born with full sight and hearing on June 27, 1880, in Tuscumbia, Alabama. Yet at 19 months, she was stricken with what at the time was called brain fever and was left both blind and deaf.
Helen was a very privileged little girl. Her parents were quite wealthy, and her mother in particular was very intelligent and very well-read, and she contacted the Perkins School for the Blind and managed to get help in the form of Ann Sullivan Macy, the now very famous teacher of Helen Keller.
Ann Sullivan began working with fingerspelling and other ways of trying to communicate with very little success until one moment, the aha moment came. It hit Ann to take Helen out to the water pump, and she hand pumped the water and let the cold water flow through Helen's one hand while she fingerspelled W-A-T-E-R in the other hand. Everything just came together for Helen and for Ann, and all of a sudden the behavioral problems disappeared and they started fingerspelling, and they managed to develop 30 different new words by the end of that first day, and they were on their way.
By age 10, Helen Keller had mastered Braille as well as the manual alphabet. She also learned to use a typewriter. By age 16, Keller could speak well enough to go to preparatory school. And by age 24, she had graduated from Radcliffe College cum laude.
She is the first deafblind person to graduate from a college. She graduated in 1904. Ann Sullivan Macy, her brilliant teacher, had to manually sign every single lesson into her hand.
When Helen was still in college, she wrote her first book, her biography. From that, she began writing other articles and speaking. And because of her deafblindness, people would pay attention in a way that they didn't to other people, perhaps. And she used that to advocate for not just disability issues, but political and social issues, including women's suffrage, birth control, and other issues as well.
Helen Keller was famous from the age of 8. But her celebrity increased as she championed the cause of those with disabilities internationally.
During the 1930s, 40s, and 50s, she traveled the world, 39 countries, bringing hope and courage to millions of people. She changed the perception of people with vision loss. Rehabilitation centers and schools for the blind were established because of her visits.
In the late 50s and early 60s, Helen's life story was brought to the masses with The Miracle Worker, first as a TV movie, then a Broadway show, and finally an Oscar-winning movie.
She knew everybody from Alexander Graham Bell to Lyndon B. Johnson, and she was brilliant at leveraging all the people that she knew for help to change the lives of those with vision loss.
Helen Keller lobbied on behalf of the American Federation for the Blind for 44 years. She died in her sleep on June 1st, 1968, just weeks away from her 88th birthday.
Helen Keller will be remembered for really transforming the view of the blind and others with disabilities. Prior to her life, people with disabilities were seen as people who did not deserve to live full lives. And Helen Keller's activism, her life story, really challenged the stereotype and said that people with disabilities can live a full and complete life.
Je vais terminer ce message et on va aller à la prière dans quelques instants. On a du temps. Je voulais finir un peu plus tôt qu'on puisse prier ensemble. Je crois que Dieu veut parler ce matin. Dieu veut nous toucher. Dieu veut nous restaurer, fortifier, rafraîchir. Et Helen Keller, c'est une femme de foi. Et je vais terminer juste en vous citant quelques-unes de ses paroles. Elle dit, « Je remercie Dieu pour mes handicaps. Au travers de ceux-ci, je me suis découvert ainsi que mon travail et mon Dieu. » Elle a aussi écrit, « Dieu est en moi comme le soleil dans la couleur et la fragrance dans une fleur. Il est la lumière dans ma noirceur et la voix dans mon silence. » On n'est pas nécessairement obligé, lorsqu'on peut avoir la vue, mais avoir la noirceur. On peut avoir la voix, mais être sans mots. Et Dieu, aujourd'hui, veut vous redonner cette lumière-là dans la noirceur, cette voix-là dans le silence. Elle a écrit « La foi est la force par laquelle un monde brisé émerge en lumière. » Et finalement, « Si un aveugle marche main dans la main avec Dieu, il trouvera son chemin plus sûrement que quelqu'un qui voit, mais marche sans la foi et sans but. » Si vous êtes avec Dieu ce matin, Dieu vous tend la main. et peut vous conduire à travers cette terre promise. Je vais juste vous demander de vous lever. Est-ce qu'on peut se lever dans ce lieu? On va chanter un chant, « Mon espoir est en toi ». Et après ça, j'aimerais qu'on puisse prendre un temps de prière ensemble. Quelques minutes, mais qui peuvent changer une destinée. Quelques minutes qui peuvent vous encourager ce matin à marcher dans cette terre promise.